Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. À Mortagne-au-Perche, un lieu est méconnu, mais ô combien intéressant. Il s'agit du couvent des Clarisses. Et je remercie Elisabeth Gosseron d'avoir accepté mon invitation. Elisabeth Gosseron a fait un master en histoire et elle s'est spécialisée dans le patrimoine et tout particulièrement l'étude du Perche. Elle écrit d'ailleurs dans Pays Perche et elle a bien voulu évoquer pour nous ce cloître des Clarisses à Mortagne-au-Perche. Elisabeth Gosseron, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors d'abord, où se trouve, où est situé ce cloître des Clarisses? Parce qu'en fait, il est peu connu et même je me suis aperçue qu'à Mortagne-au-Perche, on ne savait pas trop où il était.
Oui, effectivement, parce qu'il est complètement caché par le nouvel hôpital, l'hôpital Marguerite de Lorraine, donc qui porte le nom de sa fondatrice, mais peu de gens le connaissent parce qu'il est entouré de bâtiments très modernes et on a du mal à distinguer quand on arrive un bâtiment plus ancien avec une toute petite porte, c'est à peine indiqué, et là on rentre dans l'ancien hôpital qui date du tout début du XVIe siècle.
Oui, alors justement, je crois qu'il faut dire à nos auditeurs que quand il sera à Mortagne, il faut demander le centre hospitalier et comme ça, vous arriverez directement au cloître.
Voilà, exactement. Et le cloître et la chapelle sont visitables librement tous les jours aux horaires d'ouverture de l'hôpital.
Oui, il faut dire que ce cloître a vraiment gardé sa beauté primitive et il donne accès aussi à cette chapelle Saint-François qui est absolument sublime parce qu'elle contient des richesses historiques, je dirais, et des décors polychromes qu'on voit
rarement. Rarement, parce qu'elle est entièrement couverte. Du sol au plafond, toute la voûte est peinte et les élévations également. Il n'y a pas un centimètre qui ne soit décoré.
Et l'histoire de ce lieu est très intéressante puisqu'on remonte donc au fin 15e, 16e
voilà,
siècle.
Fin 15e à toute une époque qui est passionnante. De la fondation des hôpitaux, en fait les hôtels-dieu ou hospices, qui sont une tradition un peu plus ancienne qui date du 12e, 13e siècle. Où les grands de ce monde prenaient le relais des monastères pour accueillir les pauvres et les malades. Et à Mortagne, on a eu depuis le XIIIe siècle un très ancien hôpital qui était l'Hôtel Dieu et qu'on a appelé par la suite l'Hospice Saint-Nicolas,
oui.
Qui était donc situé dans la rue du même nom, qui est devenue la rue Aristide-Briand. Donc maintenant, cet ancien hôpital a été d'abord occupé par la préfecture et ensuite par actuellement une école maternelle. Voilà. Et c'est là que commence l'histoire de l'hôpital, puisqu'il a été transféré par la suite, mais ça c'est toute l'histoire qu'on va raconter,
oui.
Dans ce couvent des Clarisses.
Voilà, donc couvent des Clarisses, très, très lié à l'hôpital.
Voilà, donc ça commence avec Marguerite de Lorraine. Marguerite de Lorraine succède en fait à deux autres bienfaitrices de Mortagne, qui étaient les comtesses du Perche, d'abord Mao de Bavière.
Oui.
Mao de Bavière au XIIIe siècle, qui était la nièce de Richard Cœur de Lion. Son mari était parti en croisade avec Richard Cœur de Lion, donc c'était le comte du Perche Geoffroy III,
oui.
Qui lui-même donc avait fondé avec sa femme cet hospice Saint-Nicolas. Et puis au XVe siècle, on a aussi Marie d'Armagnac. Marie d'Armagnac, c'est une autre comtesse du Perche, qui est la femme de Jean II, Jean
D'ailleurs,
II d'Alençon.
Ces personnages, on peut les voir dans les vitraux aussi de l'église de Mortagne-au-Perche.
Oui, absolument.
Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des très beaux vitraux aussi.
Oui.
Où on peut lire cette histoire de France, en fait.
Jean II d'Alençon, qui lui-même était un compagnon de Jeanne d'Arc, donc célèbre comte du Perche. Elle a œuvré énormément dans l'hospice Saint-Nicolas. Elle s'était même fait construire une maison contiguë à l'hospice pour pouvoir venir soigner les malades. Et donc, c'est son fils, René, qui épouse Marguerite de Lorraine. Alors, Marguerite de Lorraine, qui est donc la fondatrice de ce couvent des Clarisses, devenu hôpital, est un personnage de très haute naissance. Elle descend directement par sa mère Yolande d'Anjou de Saint-Louis.
Oui.
C'était une jeune fille qui a été élevée en partie par son grand-père, le bon roi René d'Anjou, donc à la cour d'Aix-en-Provence. René d'Anjou, qui était à la fois poète, artiste, botaniste, elle a reçu une éducation très très raffinée et également en religion. Donc elle est restée avec lui, je crois, jusqu'à l'âge de 17 ans, puis elle est retournée en Lorraine. Et enfin, en 1488, elle épouse le comte René, comte du Perche et duc d'Alençon.
Oui, très connu également.
Très connu également. Elle a une vénération pour sa belle-mère, Marie d'Armagnac, et elle reprend l'œuvre de sa belle-mère. Et ouais. Donc elle se met elle aussi à soigner les pauvres dans cet hospice. Parce qu'entre-temps, elle a perdu... Alors, quand elle a épousé René, elle avait 25 ans. Lui en avait 48. Donc, elle se retrouve veuve assez vite. Elle a eu le temps d'avoir 3 enfants. Mmh. Et elle vient s'installer entre Mauves, où elle a fait construire un château.
Alors, il faut dire que Mauves, c'est un très joli village aussi, et qui se trouve à quelques encablures de Mortagne.
Oh oui, je ne sais pas exactement de combien de kilomètres, mais enfin, c'est vraiment tout proche. Ouais. Et elle voulait élever ses enfants au bon air de Mauves. Mmh. Voilà. Et elle avait reçu, il faut le dire, le privilège très rare pour une veuve de pouvoir élever, éduquer elle-même ses enfants, puisque la tradition voulait que quand une femme était veuve, on confie ses enfants à un autre couple, à un autre seigneur et à sa femme.
Mais elle tenait beaucoup à avoir ses enfants près d'elle, d'ailleurs.
Elle tenait beaucoup à ça, elle était très férue d'éducation, elle les a élevés dans la religion. Oui. Elle a en même temps repris les finances du duché d'Alençon, c'était une tâche très vaste. Et notamment, elle a comblé toutes les dettes avec sa fortune personnelle. Elle a imposé un train de vie beaucoup plus restreint. Elle-même s'est vraiment restreinte dans ses dépenses et son train de vie. Et puis, grâce à l'appui d'Anne de Bretagne, puisqu'elle était très admirée par Anne de Bretagne pour sa piété, parce que juste après son mariage, elle avait fait des séjours, elle était invitée à la cour de Charles VIII, à Plessis-les-Tours. Elle s'était liée avec Jeanne de France, qui a été béatifiée, qui était aussi sa cousine. Donc Jeanne de France, qui était la première épouse du futur Louis XII,
oui,
l'épouse
pour
boiteuse.
Pour Mortagne au Perche, c'était formidable.
Ah ben c'est un prestige immense. Oui. Cette comtesse était liée à tous les grands du royaume, mais elle a préféré rester à Mortagne et puis oublier tout ça et ne plus aller à la cour. En revanche, son fils Charles, qui sera le comte du Perche, et duc d'Alençon, lui, a été, par exemple, le page très, très honoré lors du couronnement de Louis XII.
Oui.
Donc lui a continué à fréquenter la cour. Et puis sa postérité à Marguerite de Lorraine est illustre aussi, puisque son fils, donc Charles, a épousé la sœur de François Ier, qui s'appelait Marguerite d'Angoulême. Et Marguerite d'Angoulême se remarie avec le duc d'Albret. Duc d'Albret qui aura Antoine de Bourbon, père de Henri IV. Donc elle devient la grand-mère d'Henri IV, en fait.
C'est pourquoi, voilà. D'ailleurs, on trouve à Mortagne-au-Perche une maison qui s'appelle la maison Henri IV, où, dit-on, Henri IV aurait couché. D'accord. Très belle maison d'ailleurs, mais donc tout est lié à Mortagne en
oui,
fait.
Oui, oui, tout est lié à Mortagne, et Mortagne était vraiment la ville préférée des comtes du Perche.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y trouve beaucoup d'hôtels particuliers.
Magnifique.
Tous plus beaux les uns que les autres.
Ouais, oui, c'est une ville très riche architecturalement, puisqu'elle a été fréquentée par les plus grands.
C'est ça, oui.
Marguerite de Lorraine passe énormément de temps dans cet hospice, et puis eh bien, le nombre de pauvres s'accroît. Et rapidement, elle se rend compte qu'elle a besoin de religieuses plus nombreuses pour l'aider à soigner les malades, puisqu'elle-même soigne les malades. Elle ne se contente pas d'administrer.
C'était ce qu'on appelle un petit hôpital.
Oui, c'était un petit hôpital, mais voilà, les pauvres s'y pressaient et les malades. Et elle a besoin donc de faire appel à des sœurs d'un ordre religieux qui s'appelle les sœurs de Sainte-Élisabeth de Hongrie. C'est un ordre hospitalier qui appartient au tiers-ordre de Saint-François. Et donc en 1499, elle fait venir quelques religieuses, elles ne sont pas très nombreuses, je crois qu'elles sont 6, et elle les installe dans l'hospice Saint-Nicolas. Seulement voilà, assez rapidement, les sœurs de Sainte-Élisabeth de Hongrie réclament un endroit plus retiré du monde pour vivre leur foi.
Oui. Alors heureusement qu'il y a de l'argent, parce qu'elle va faire vraiment ce que veulent les religieuses.
Ah oui, elle les écoute tout de suite, alors qu'elle avait quand même besoin de ces religieuses, mais leur priorité étant de se retirer, de se cloîtrer, elle accepte de leur trouver un terrain. En fait, elle charge son homme de confiance, homme d'affaires qui s'appelle Jean Goévreau,
oui.
Donc une famille de mauves, qui était médecin en même temps. Elle le charge de trouver un terrain, et donc il trouve un champ qui est en contrebas de la ville et qui était l'endroit où étaient les fourches patibulaires, c'est-à-dire, c'est pas très gai, c'est l'endroit où on exposait les dépouilles des condamnés à mort, là où il y avait les gibets.
Si bien qu'en fait, elle va pouvoir faire construire très vite.
Très vite, c'est ça. Alors le champ est acheté en 1502, et puis c'est sa dame de confiance et grande amie qui s'appelle Jeanne de Montboisier, dame d'honneur de la duchesse Marguerite, qui est chargée de s'occuper des travaux. Et finalement, ça va assez vite, puisque les bâtiments conventuels sont terminés à peu près en 1505. En tout cas, les sœurs de Sainte-Élisabeth de Hongrie peuvent s'installer en 1505. Le chantier est en cours à ce moment-là.
Et c'est là qu'elles prennent le nom de Clarisse ?
Oui, alors ça c'est en 1510,
c'est plus
tard. Voilà, oui. Et donc sous la règle du tiers-ordre de Saint-François. Et la chapelle, en revanche, n'est consacrée qu'en 1515 ou 1516. Oui. Voilà, elle est terminée et consacrée à ce moment-là. Alors Madame de Montboisier a fait énormément de donations, dont des grands meubles. Donc on trouve dans le cloître encore un énorme meuble, un coffre à farine en fait, qui avait besoin de poulies tellement il était lourd pour soulever le couvercle.
Oui,
donc
ça lui, c'est très important parce qu'on peut encore voir ce meuble qui est du début 16e siècle.
Exactement.
Comment a-t-il réchappé en fait à tout ce qui s'est passé, parce que vraiment,
ça j'en sais rien. C'est vrai que le cloître est resté complètement intact parce qu'il n'y avait pas grand-chose dedans, et finalement ce qu'on peut voir dans le cloître qui est très intéressant, ce sont les plaques mortuaires, les dalles, qui sont les tombes des religieuses, qui à l'origine étaient enterrées dans la petite cour. Et puis leurs corps ont été exhumés au XVIIe siècle et on les a placés sous les galeries du cloître.
Voilà, c'est bien qu'elles sont dans le cloître.
Oui, et on peut voir toutes les plaques à leur nom, pour la plupart mortes au XVIIe siècle.
Alors, Marguerite de Lorraine, est-ce qu'elle va devenir religieuse à ce moment-là ?
Alors oui. En fait, depuis le début, elle est très attirée par la vie monacale. Elle continue de s'occuper de l'hospice Saint-Nicolas, mais en même temps, pour être proche des religieuses et du nouveau couvent des Clarisses, elle fait construire une petite maison, tout proche du couvent, qu'on va appeler le petit hôpital, et dans lequel elle continue de recevoir les malades, et elle-même applique les onguents, soigne les plaies les plus dégoûtantes, enfin rien ne la dégoûte,
Un amour des autres qui est...
Alors à la fois un amour des autres, et puis vraiment un intérêt pour la médecine.
Oui, c'est ça.
Parce qu'elle est très proche de Jean Goévreau, et elle-même s'est intéressée à plein de pratiques chirurgicales, par exemple la césarienne, elle a vraiment participé à ça avec Jean Goévreau. C'est pas seulement le fait de soulager la misère, mais aussi la médecine qui l'intéresse.
Ça, oui. Et c'était très nouveau à cette époque.
C'était très très nouveau,
elle était...
C'était une femme, une très forte femme, avec un sens des affaires, parce qu'il fallait mener tout ça. Elle administre à la fois l'hôpital Saint-Nicolas, elle fait construire ce couvent, elle continue de s'occuper des pauvres. Voilà, et dans ce petit hôpital, elle fait construire une galerie qui enjambe la rue pour pouvoir venir dans le couvent.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Thank you. Je suis toujours avec Elisabeth Gosseron. Nous avons évoqué ce cloître de Mortagne-au-Perche, un cloître que l'on peut trouver quand on demande en quelque sorte le centre hospitalier, puisqu'il est dans ce centre hospitalier. N'est-ce bien, c'est bien cela?
Oui, absolument. Il est un peu caché.
Caché.
Mais voilà, il faut demander. Il est indiqué par des petites flèches très, très discrètes.
Oui, ça c'est, on voit quand même les flèches, donc on peut y aller. Mais c'est vrai que quelquefois, les gens se disent « Mais non, je me suis trompée, c'est
oui,
un hôpital. »
Oui, parce que ça semble absolument pas possible d'être au milieu de tous ces bâtiments
voilà.
très, très modernes et tout d'un coup d'entrer dans un endroit qui vous replonge 500 ans en arrière.
C'est même incroyable
parce
que tout est très clair, tout a été refait dans cet hôpital et tout d'un coup on arrive dans un havre de paix du XVIe siècle.
On passe par une espèce de sas très sombre et puis on débouche dans le cloître qui est magnifique, très calme, paisible. Et ensuite on rentre dans la chapelle qui là est étonnante avec tous ces... tous ces décors.
Alors, nous en étions justement à Marguerite de Lorraine, qui a donc fait ce petit hôpital, puisque vous le disiez, elle aimait les autres, mais aussi elle était médecin.
Oui, elle aimait beaucoup soigner, elle s'intéressait à toutes les techniques de médecine. Donc, elle arrive à combiner un peu les deux, elle continue de soigner les malades, et en même temps, elle se rapproche de ce couvent qu'elle a créé pour les sœurs de Sainte-Élisabeth, qui sont devenues les Clarisses. Et elle enjambe la ruelle par une galerie couverte qu'elle a fait construire pour pouvoir venir écouter les offices de façon très discrète. Et dans le couvent, elle s'est fait aménager une petite chambre. Et on voit depuis la chapelle une espèce de baie à deux battants qui a été ouverte sur le chœur pour que la duchesse, comtesse du Perche, duchesse d'Alençon, Marguerite de Lorraine, puisse assister aux offices de cette petite chambre. Parce que de plus en plus, elle se rend compte qu'elle est attirée par la vie monacale. Ce n'est pas au couvent des Clarisses qu'elle va entrer, mais finalement, comme simple religieuse, en 1520, dans le couvent d'Argentan, couvent de Sainte-Claire à Argentan, qu'elle a fondé également.
Qu'on peut voir d'ailleurs, on voit les vestiges, et c'est intéressant aussi parce qu'il y a toujours des sœurs à Argentan.
Voilà, et en fait on lui avait demandé, les Clarisses de Mortagne lui ont demandé d'être leur mère abbesse, mais elle a refusé, elle voulait être simple religieuse. Et donc en 1520, elle revient visiter le couvent de Mortagne, elle y revient souvent et puis elle fait un dernier voyage et elle revient mourir à Argentan en 1521.
Voilà. Et en fait, elle va être béatifiée.
Et elle va être béatifiée en 1921.
Ouais. Voilà. C'est quand même un très beau parcours.
Magnifique, magnifique. Et elle a jusqu'à la fin choisi l'humilité. Elle ne voulait pas les honneurs, donc même pas mère abbesse. En revanche, Jeanne de Montboisier, sa grande amie et dame de compagnie qui a surveillé les travaux et doté le couvent, sera la quatrième mère abbesse.
Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi tous les éléments de cette chapelle qui datent de cette époque.
Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui datent de Marguerite de Lorraine.
Oui.
Donc, c'est très ancien, on est au début du XVIe siècle. Et il reste donc ce panneau qui s'ouvre sur le chœur et qui permettait donc à Marguerite de Lorraine de suivre les offices. Donc, il est encore là.
Oui.
Il est surmonté par son blason. Il est en mauvais état, mais ça, on va en parler tout à l'heure.
Oui, oui.
L'ensemble est en très mauvais état.
Il faut le dire pour qu'on ait des mécènes.
Voilà,
puissent...
parce que le directeur de l'hôpital voudrait ouvrir une sorte de fondation pour attirer les dons, parce que c'est un trésor qui est en train de se perdre.
C'est ça.
On va revenir là-dessus.
On va lancer un cri à la fin de notre émission.
Oui, 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 parce que vraiment, elle le mérite. Donc, il y a cette ouverture. Il y a aussi la dépouille du comte René, comte du Perche, puisque Marie de Lorraine a voulu ramener sa dépouille d'Alençon.
Oui.
Elle voulait que ce soit là, qu'il repose. Donc il est sous une dalle avec une épitaphe. Il y a aussi les restes de Catina.
Oui, alors de Mauve également, hein.
Oui, c'est la même famille. Alors, eux font partie des grands donateurs qui ont beaucoup donné à la chapelle. Ouais. Enfin, énormément de personnages importants des environs ont fait des donations à la chapelle. Alors, c'est amusant parce que c'est sous forme de d'arpents de bois ou de sel ou d'un moulin. Enfin, énormément de donations qui ont permis au couvent de vivre bien, enfin, confortablement.
D'ailleurs, à Mauve, on a un pont. Qui s'appelle le pont Catina, et en souvenir, et c'est un très joli pont.
Magnifique, voilà. Magnifique.
Donc, quand vous irez visiter le centre hospitalier, chers auditeurs, n'oubliez pas d'aller à Mauve et de franchir ce joli petit pont Catina. Alors, est-ce qu'on sait comment ça se passait au couvent? Est-ce qu'on connaît le nombre de religieuses?
Non, malheureusement, ça a été la difficulté. C'est qu'en fait, on a très peu d'archives. Ouais. On a des archives sur la vie de Marguerite de Lorraine, puisque beaucoup de prêtres, d'abbés ont réuni des tas de témoignages sur sa vie. Ça, elle est très documentée. En revanche, l'histoire du couvent, puis l'histoire de l'hôpital, jusqu'au 19e siècle, on ne sait pas grand-chose. On sait en revanche qu'elle n'était pas nombreuse.
Pendant les guerres de religion, ça a été tragique aussi.
Alors voilà, il y a eu deux épisodes très violents. Il y a eu les guerres de religion. Mmh. Donc, une religieuse a été égorgée dans le cloître. Ouais. L'un des vitraux...
Le
montre. Alors, c'est un des vitraux qui raconte la vie de Marguerite de Lorraine. Et puis, on a en médaillon le martyr de cette sœur qui a été égorgée sous le cloître.
C'est pourquoi les vitraux sont très importants aussi.
Oui. Ouais. Oui, il raconte. Alors, il représente des évêques de Cé, la vie de Saint François, la vie de Sainte Claire. Ce sont les grands thèmes des vitraux et des peintures, des décors polychromes.
Alors, quand est-ce que le couvent a été transféré?
Alors, ça se passe à la Révolution, puisque à la Révolution, deuxième zone de violence, enfin époque de violence, en 1793, les Clarisses sont expulsées du couvent et la chapelle est mise à sac. En fait, il n'en reste que les quatre murs. Elle est complètement dépouillée. L'architecture n'est pas détruite, mais il n'y a plus rien dedans, sauf les éléments que j'ai cités, qui datent de Marguerite de Lorraine, heureusement. Mais beaucoup de choses disparaissent.
Alors, quelles sont les sœurs qui sont venues après?
Alors, ce sont les Augustines. Donc, les Clarisses disparaissent.
Et Augustines
Les Augustines, c'est un ordre hospitalier. On les avait appelées au XVIIe siècle, parce que finalement, l'hospice Saint-Nicolas, qui continuait à recevoir les malades, était administré par des Mortagnaises, mais qui n'avaient peut-être pas le don pour conduire les affaires de l'hôpital.
Ouais.
Et en fait, on les appelle au secours au XVIIe, ces Augustines, parce qu'elles savent très bien faire. C'est un ordre hospitalier qui a l'habitude de ça. Et elle s'installe à cette époque-là, en 1660 ou 66.
Et elles vont rester là jusqu'à la Révolution.
Alors, pareil que les Clarisses, elles sont expulsées aussi en 1793. En revanche, on les appelle 7 ans plus tard, c'est-à-dire en 1800. Et à cette époque-là, on décide de transférer tous les malades, enfin tout l'hôpital Saint-Nicolas, de le transférer dans le couvent des Clarisses, qui est maintenant déserté par les sœurs. Et on y appelle les Augustines, donc qui suivent les malades dans ce qui devient maintenant l'hôpital. Donc c'est en 1800 que le couvent des Clarisses devient l'hôpital de Mortagne.
Oui.
Hôpital Marguerite.
Alors nous avons eu l'histoire. Maintenant, pour nos auditeurs, j'aimerais bien que vous décriviez ce couvent et cette chapelle.
Alors, on a ce cloître magnifique, qui est très pur, sur des piliers très solides, avec 4 galeries qui tournent autour d'une petite cour qui était autrefois plantée d'arbres. On a enlevé les arbres, évidemment, parce que pour les toitures, c'était très mauvais.
L'été, c'est magnifique.
Oui, c'est un havre de fraîcheur. Ouais. Il y a une espèce d'obscurité. Enfin, ça a un charme fou.
Qui pousse là. Et c'est vrai qu'on a l'impression de se retrouver au XVIe siècle.
Complètement.
Quand on est dans
parce
ce cloître.
Parce que, à l'exception d'un angle qui a été condamné au XIXe siècle pour construire un escalier, il est resté exactement comme au XVIe siècle. Mais exactement. Donc, on sent vraiment une ambiance très très ancienne de paix, de recueillement. Et puis, donc, une petite porte donne accès à la chapelle. Et là, c'est magnifique. C'est une chapelle qui a un plan très simple, une nef avec un chevet à pans coupés. Mmh. Et puis, il y a une petite salle derrière qui s'appelle la salle du trésor. On ne sait pas très bien pourquoi, il y a dû y avoir un trésor. Mais ce qui est admirable,
c'est... Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle ?
Il n'y a rien.
Rien.
Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a une tribune qui, autrefois, recouvrait les deux tiers de la nef. Et qui, à partir du 17e, en fait, au 17e, a été réduite, qui fait maintenant à peu près un tiers de la nef, et qui est couverte de boiseries, très belles boiseries du 17e, donc de cette époque-là.
Oui, Mortagne était très riche, hein, parce que partout il y a des boiseries, que ce soit dans l'église.
Oui, bien sûr, oui. Dans l'église. Vraiment, et là, la chapelle a été vraiment richement, très richement décorée. Alors, redécorée beaucoup à partir de 1800, entre 1800 et 1802, après les destructions de la Révolution, grâce à la générosité des Mortagnais. Elle a retrouvé beaucoup de décorations.
Et est-ce qu'elle a été rendue au culte ?
Elle a été rendue au culte en 1802.
Oui, ça c'est voilà. Quand même très intéressant parce que depuis quand il n'y a plus de messe ? On ne sait pas.
Ah, je ne sais pas. En tout cas, il y a des services religieux pour des enterrements.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais il n'y a plus de messe depuis longtemps.
Peut-être quand il y aura justement des rénovations, ce sera possible.
Peut-être, en tout cas, tous les efforts sont faits en ce moment pour lui rendre une utilité, parce que c'est tout le problème de ce projet de restauration, c'est de donner une utilité à la chapelle, parce qu'on va y consacrer beaucoup de moyens.
Alors la couverture a été changée également.
Alors la couverture, oui. Alors le cloître a subi, a connu des restaurations en 1981.
Oui.
La couverture. Donc ça, c'est en bon état. Ce qui souffre, c'est la chapelle. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte, c'est le directeur de l'hôpital, Hervé Levert, qui s'est rendu compte que les décors polychromes magnifiques, donc qui datent du 19e siècle, fin du 19e siècle.
C'est Raphaël Chadaigne.
Voilà, Raphaël Chadaigne, qui a fait tous les décors polychromes de la voûte,
oui.
Avec les symboles de l'incarnation, une scène de la vie de Sainte-Claire d'un côté, une scène de la vie de Saint-François de l'autre. Et voilà, toute la voûte est entièrement décorée.
Donc cette chapelle a été classée.
Cette chapelle a été classée, oui, oui. Alors elle a été classée en 1921, je crois.
Enfin, le cloître en 1920, oui.
Ah oui, c'est ça, le cloître en 1920. La chapelle a été classée plus tard, en fait, 1986, je crois. Alors, pas monument historique, mais à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en même temps que d'autres bâtiments, l'ancienne cidrerie, le petit hôpital, justement, cette petite maison que Marguerite de Lorraine avait fait construire de l'autre côté, qui lui permettait de communiquer. La galerie qui enjambait la rue a été détruite, malheureusement, au 19e siècle. Mmh.
Alors, quels sont les... Il y a eu une constatation des dégâts et qui a œuvré pour cela ?
Pour cela, alors, c'est le directeur de l'hôpital, donc André Levert, qui s'est rendu compte, qui s'est alarmé de énormément de pans, des pans entiers de peinture polychrome qui se sont décrochés. Donc, on voit que c'est piqueté un peu partout.
Donc, une alerte et j'espère des travaux qui seront bientôt faits dans cette chapelle pour la restaurer.
Voilà, donc l'architecte des bâtiments, Benoît Maffre, a été appelé. Il a fait, pendant toute l'année dernière, une énorme étude diagnostique.
Voilà, donc on espère qu'à partir de cela, eh bien, il y aura des travaux.
C'est en bonne voie.
Un grand merci. J'espère que nos auditeurs auront à cœur de visiter cette chapelle et ce cloître. Et je vous invite également à nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Vous pourrez également retrouver le numéro 26 de Pays du Perche, la revue de la Fédération des Amis du Perche. Un grand merci à vous.
Merci, Christiane Blain.